Radio Galère 88.4 de la bande FM marseillaise DAB+. L'histoire continue et permanente, une émission d'Éric Lebreux. Histoire d'une radio en compte courant, Radio Galère, carte de visite, première partie, parole aux animateurs. C'est l'heure de l'histoire continue. Oui. Alors, je vais expliquer ce que c'est. Bon, parce que toujours dans la série Radio Galère, et là, c'est la première partie qu'on va parler, c'est Radio Galère, carte de visite. En fait, c'est aujourd'hui, c'est Radio Galère, Kazako. Kazako en province, qu'est-ce que c'est?
Oui,
alors,
d'accord.
C'est tiré des échos du Grand Saint-Barthélemy, hein, l'émission de Jean-Marc Hégard. Elle avait été enregistrée le 29 février 2024, quelques mois avant la mort d'Étienne Bastide, qu'on va vous écouter en deux parties. Et la première partie, c'est comment fonctionne la radio. Et bon, avec l'intervention d'Étienne, Jean-José, Jean-Marc Hégard, un petit historique, mais aussi l'association, les financements. Et pour que les... Alors, c'est une émission qui est destinée à la fois pour les auditeurs de Galère, comment fonctionne une radio associative, pour qu'ils connaissent, et aussi pour quelques animateurs qui, c'est vrai, qui sont un peu accrochés à leur émission, mais qui ne voient pas le fonctionnement de la radio, donc plus pédagogique à ce niveau-là. Et donc, on diffuse l'émission qui est tirée de Jean-Marc Hégard,
les échos du Grand Saint-Barthélemy,
qui sont régulièrement diffusés sur Radio Galère. On écoute ça.
Pas facile d'abord la parole à Étienne pour nous raconter un petit peu l'historique de Radio Galère.
Ok, c'est difficile hein, d'attaquer le sujet comme ça. Mais bon, moi je voudrais revenir dans un premier temps à Radio Béton. Le béton est armé, pourquoi pas vous, qui était donc précurseur des radios libres sur Marseille. Donc les gens se baladaient avec une mobilette ou une voiture dans la colline, un émetteur qui était branché sur une batterie 6 ou 12 volts en fonction de l'émetteur. Et on émettait à peu près 20 minutes par semaine avec des programmes qu'on avait préparé chez les uns, chez les autres. Donc, on ne s'est jamais fait attraper. C'était interdit, mais bon, il y a d'autres gens qui se sont fait attraper en France. Ils n'ont pas risqué grand-chose, hein, de toute façon. Nous non plus, on n'avait pas le sentiment que enfreindre cette règle était particulièrement le fait de voyous. Mais bon, on avait marre du monopole et du fait que sur toutes les antennes, c'était l'État français qui prenait la parole. Voilà. Donc quand Mitterrand, parmi les 150 promesses qu'il avait faites, et qu'il y en a deux qu'il a tenues, donc l'abolition de la peine de mort et l'ouverture des ondes hein, sur la modulation de fréquence. Donc là, on s'est engouffré, on a fait une première radio qui s'appelait Radio Point Zéro, puis Radio Provisoire. Et c'est comme ça que les choses ont commencé. Au fur et à mesure, donc, on a garni en quelque sorte les programmes. Il y avait une assemblée générale tous les lundis qui rassemblait environ 60 personnes. C'est-à-dire s'il y en a beaucoup, hein, des fondateurs de Galère, enfin de Radio Provisoire de l'époque. Et ça n'est devenu Galère, groupement associatif pour la liberté de l'expression radiophonique, puisque c'est un anagramme que lorsqu'on a intégré deux autres projets de radio, l'un qui s'appelait Radio Soleil, qui faisait du rock'n'roll toute la nuit, et un autre qui s'appelait Radio 13, qui était le fait de gens du conseil général de l'époque, des employés du conseil général, et qui s'étaient fait piquer leur projet très vite par le directeur qu'ils avaient nommé. Donc ils se sont volontiers joints à nous pour fonder ce groupement. Parce que du côté de Madame Cotta, autorité, dans leur idée, c'était de marier Radio Galère avec Radio Gazelle. Alors Radio Gazelle, notre ami Jean-Marc, qui en a été le président, pourra sûrement tout à l'heure en parler mieux que moi. Au départ, c'était pas les barbus le matin et les scientologues l'après-midi. Mais bon, comme ça a très vite dérivé, Radio Gazelle, c'est ainsi que, par exemple, Jean-Marc Hégard est venu à Galère hein, pour tenir son émission qui est deux mots, quatre paroles, que j'ai du mal à prononcer, il faudrait que tu le dises, hein, qui a duré fort longtemps, avant que les gens, justement, ne se lassent, ne se fatiguent d'avoir l'impression de parler un peu dans le désert, mais surtout qu'ils se sont fatigués à l'accomplir. Alors j'en étais à ça, donc de la création. Très vite, il y a eu aussi des demandes de subventions. Alors il y a eu les subventions du FAS dans un premier temps. Je vous rappelle que le FAS, pour les ignorants qui ont moins de 20 ans, ou moins de 40, ou moins de 60, qui sont à l'écoute, c'était l'argent des immigrés, l'argent qu'on ne donnait pas à leur famille dans les pays d'origine, auquel ils auraient normalement normalement eu droit. Et c'était tout ça donc mis dans un seul pot qui s'appelait donc le FAS, Fonds d'Action Sociale. Voilà, après pour l'immigration et la lutte contre les discriminations, c'est venu facile d'un peu plus tard. Mais donc ça veut dire qu'il y a des gens qui non seulement travaillaient en France, non seulement touchaient pas leurs allocations familiales, non seulement ont construit les foyers sur la côte rare, mais encore quand ils sont venus les habiter, on leur a fait payer un loyer. Double peine. Voilà. Donc ça c'est juste histoire de dire. Et donc la radio a reçu ses premières subventions et elle a donc employé ses premières personnes pour réussir à la faire fonctionner. Même si les assemblées générales, c'est la partie vitale de l'association. Elle s'est plus ou moins de vitalité fatiguée avec le temps, ce qui est un peu dommage, mais pour autant, on continue à naviguer contre-courant et à ramer, comme vous le dites si bien dans votre annonce, dans votre accroche. Voilà.
Les premières subventions sont arrivées, les premiers salariés, comment est-ce que ça évolue? Il y en avait combien à l'époque? Combien y a-t-il à l'heure actuelle? D'accord. Les fondateurs ont entendu qu'il y en avait 60 qui étaient impliqués. Est-ce que les 60 sont toujours présents? J'imagine
non,
que non.
Bien sûr que non.
J'imagine bien.
Non, mais il y a quand même, à l'heure actuelle, il y a 88 émissions régulières sur les ondes de galère. Ça fait à peu près 200 bénévoles. Donc c'est pas mort, quoi. Bon, les employés qu'il y avait à l'époque, il y avait CAC Son Sein, qui donc a fait fonctionner à cette radio, de façon plus ou moins, on va dire, cohérente pendant tout un premier temps. Il y a eu, à un moment donné, donc, une énorme influence antifasciste. Il faut savoir qu'on recevait des rats-morts par la poste, dans des petits cercueils sympas. Donc c'était cool, parce qu'on disait du mal du Front National. D'ailleurs, c'est expliqué dans le livre d'Anne Tristan, au front, où elle avait fait à Marseille une infiltration du Front National, qui était pas du tout dédiabolisé ni dédiabolisateur à l'époque, qui était net de décoffrage avec des gens qui avaient fait la guerre d'Algérie avec bonheur et autres abrutis du Trognon. Donc là, il y a eu beaucoup de gens qui se sont rapprochés, l'air de rien aussi, de la radio, justement, fait des émissions sur la radio, en particulier sur ce thème, et qui sont restés pour la plupart très longtemps. Il y en a encore qui sont là. Maintenant, puisque tu m'as demandé le comparatif, maintenant nous avons comme pilier central notre ami Sidi, ça fait presque 20 ans, même peut-être plus de 20 ans qu'il est avec nous en qualité de salarié. Depuis 90, moi j'ai occupé les fonctions de responsable administratif jusqu'en 2017, mais je suis parti et je suis maintenant donc à la retraite, mais je reste le président de l'association. Il y a donc un technicien, donc maintenant c'est Sofiane, ça a été en alternance Clément, aussi pour justement aller vers de nouveaux défis, c'est-à-dire qu'au-delà d'émettre par nos propres moyens depuis la colline, c'est depuis pratiquement le début, on a changé d'emplacement, mais c'est toujours nous qui avons géré notre diffusion. On gère aussi depuis 2014 United Radio, avant Aircom, et aussi Radio Grenouille, en modulation de fréquence. Et surtout, on n'a pas loupé le coche du DAB+, c'est-à-dire cette nouvelle norme numérique de radio permet d'avoir une qualité qui équivaut au saut qu'on a fait depuis les ondes moyennes en direction de l'AFM. Donc là, la qualité est bien supérieure. Ce qui veut dire aussi que si tu envoies de la merde, de toute façon, c'est de la merde. Alors que avec la modulation de fréquence, il y avait l'avantage que plus ou moins, ça comblait les trous. Ça nettoyait plus ou moins les ondes. Là, maintenant, il n'est plus possible de ne pas faire des émissions de qualité puisque le DAB+ ne pardonne pas. Voilà. Donc, j'ai parlé des techniciens. J'ai pas dit qu'il y avait des gens pour animer des ateliers autour de tous les quartiers de la ville et aussi des plateaux comme celui qui se déroule aujourd'hui avec des personnes ressources et des habitants. Et en ce moment, c'est maintenant Louise, après Erika, qui bénéficie, par exemple, de l'aide du FONJEP. Donc Louise, il y avait dans un autre temps, parce que malheureusement, là, il a fini son contrat. Il y avait Yamine pour tout ce qui relève de l'administration. Avant, il y avait eu Aïcha, il y avait eu Mélanie, il y avait eu encore Aïcha, et puis Alex, il y a longtemps. Maintenant, il y a un nouveau chargé d'administration qui s'appelle Thomas Jacques Le Seigneur, qui vient donc remplir cette tâche, on l'espère, avec succès dans les années qui viennent. Voilà, j'ai fait le tour.
Bon. Juste une petite chose, Radio Libre, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh ben, ça veut dire que justement, tu t'abstiens de toute suprématie extérieure. C'est-à-dire qu'on n'appartient à aucun parti politique, on n'appartient à aucune église, hein, à aucune obédience, on ne fait pas de publicité, donc on est complètement libre de tout ce qu'on va diffuser. Et d'ailleurs, dans le pluralisme de chacune et de chacun, en respectant simplement notre charte qu'on s'est donnée dès le départ, qui dit succinctement, j'allais dire, pas de racisme, pas de fascisme, du féminisme. Voilà. Donc c'est le minimum syndical, quoi.
Donc du coup, j'entends pas de publicité, ça veut dire que cette manne financière qui est la publicité, vous n'en bénéficiez pas.
Alors, c'est-à-dire que ceux qui en ont bénéficié, je pense par exemple à nos amis de Radio Gazelle, si Saïd Boukanouche avait cherché de la publicité, mais en revanche, du côté de notre ami Jean-Marc Ega, je vois qu'il fait des dénégations avec fureur.
Non, mais bonjour.
Ah, voilà, obligé de parler.
Mais nous ne sommes pas là pour faire un débat concernant Radio Gazelle et Radio Galère. L'important aujourd'hui, c'est le sujet de Radio Galère, une radio qui rame à compte courant avec le point d'interrogation. Donc, même si tu as répondu déjà à la question, en quelque sorte, peut-être que la question, c'est au niveau de la charte. La charte, revenir là-dessus, parce que c'est une condition sine qua non pour aussi s'inscrire dans le cadre de Radio Galère des émissions.
C'est vrai.
Jean-Marc disait anticapitaliste.
Anti-impérialisme, oui, avec un esprit aussi internationaliste aussi, qu'il fallait avoir les solidarités.
Tu as raison, c'est écrit dans la charte. Mais bon, l'essentiel, c'est quand même dans ce que j'ai dit, antifasciste, antiraciste et féministe. Voilà.
Donc à l'heure actuelle, vous vivez essentiellement, pour ne pas dire uniquement, de subventions publiques ?
Pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout.
Alors de quoi est-ce que vous...
Alors, certes, ce n'est pas une partie trop importante du budget, mais il y a des gens qui payent leurs cotisations régulièrement. Un peu moins pour ceux qui ne peuvent pas du tout pour ceux qui ne peuvent pas du tout. Total, ça fait une somme d'environ 5000 euros par an sur 180 000 euros de budget. Là, par exemple, en septembre 2023, même si elle n'a pas apporté des 1000 et des 100, il y a eu quand même plus de 1000 euros hein, au cours de la journée où s'est déroulé ce festival. Bon, ça vient en plus de tout ce que je
festival dont tu parles, c'est quoi ?
C'est Paroles de Galère. On l'avait fait ici même.
Justement, c'est pour ça que
en 2013, à la Busserine, sur le thème des 30 ans de la marche pour l'égalité et contre le racisme, celle que certains ont à tort appelé la marche des beurs, puisqu'ils se revendiquaient ni beurre, ni margarine, ni quoi que ce soit d'autre, ni huile d'olive, enfin bref, je ne vais pas en rajouter. Mais donc, c'était déjà ce thème-là qu'on avait abordé à la Busserine. C'était la première fois qu'on sortait du cadre un peu confortable de la friche pour ce type de festival Paroles de Galère.
Jean-José, je vous écoute.
On est tellement dominé par le système, y compris dans nos têtes, qu'on pense uniquement en termes de ressources de la radio. Un jour, il faudrait qu'on la comptabilise au moins approximativement. C'est les centaines d'heures de travail bénévole, financier, comptable et monétaire gratuit. Mais c'est un travail qui a une immense valeur. Et j'aimerais que plutôt que les gens fassent le jour des élections des discours sur la valeur travail, plutôt de se dire quelle est la valeur de ce travail bénévole que font des gens au service d'une organisation qu'ils ont choisie et qu'ils contrôlent et qui ne leur rapporte rien d'autre que du plaisir, de la solidarité, de la construction de vivre ensemble. Pour moi, c'est gigantesque comme valeur. Elle est énorme, la montagne de ressources dont vit Radio Galère.
Mais je posais cette question-là parce que compte tenu des contrats, de l'évolution et compagnie, je cherchais à comprendre.
On a donc le fonds de soutien à l'expression radiophonique et sa subvention sélective. Donc c'est une base de 42 000 euros par an, à peu près 30 000 pour la subvention sélective. Ça veut dire qu'on rentre bien dans les clous de la loi de 86 sur la défense de l'environnement, contre l'exclusion, contre le racisme, contre toute la discrimination. Donc il se trouve que Radio Galère, c'est des causes qu'elle a adoptées depuis longtemps. Donc ça rentre pour l'environnement, pour la vie locale, et y compris avec tous les artistes qui peuvent venir se succéder à la radio et qui viennent en général à pied, prennent pas l'avion, arriver jusque dans les locaux de Galère. Donc il y a ça, il y a des subventions du conseil départemental, mais elles sont en chute constante. Le conseil régional qui a longtemps aidé, mais qui depuis le président qu'il a, n'a rien donné du tout. Plus de ligne contre les discriminations, ni pour les radios, ni que dalle. Et il y a la ville de Marseille qui a été très constante dans son aide, puisque jusqu'à pas très longtemps, elle nous donnait 800 euros sous Godin par an. Voilà, merveilleux. Puis récemment, là, 4000 euros que la municipalité a changé. Voilà. Qu'est-ce que j'oublie? Je ne pense pas que j'oublie grand-chose. Oui, il y a beaucoup d'appels à projets. Donc, on a répondu à des appels à projets du PAGE, donc pour les Jones. On a répondu à des appels à projets du ministère des Affaires étrangères via le FONJEP aussi, dans le temps du confinement. On a répondu aussi à la DRAC, qui a tout plein d'argent aussi qui rentre par là, par l'intermédiaire du FONJEP aussi.
Moi, je voulais préciser ça parce que c'est vrai que ce que tu disais, c'était surtout mettre en avant ce côté subvention, et qu'on est subventionné, on entend vite dans vos subventions de l'argent donné aux associations. Déjà, il faut monter des dossiers pour les avoir, ces subventions, donc c'est déjà en soi un travail. Mais par ailleurs, il y a tout ce côté appel à projet qui est de l'argent public, de la même manière que les subventions, mais pour autant, perspective en tout cas de toucher cet argent-là que d'avoir des subventions. C'est pour ça que je pensais que c'était
tu
important.
Tu as tout à fait préciser. Raison de compléter, Clément. Donc moi, je vais me taire maintenant.
Et oui, et malheureusement, il ne reviendra pas à l'antenne.
C'est l'enregistrement qui a été enregistré le 29 février 2024, quelques mois avant sa brutale disparition.
C'est ça,
dans
c'est
l'émission de Grand Saint-Barthélemy, animée par Maméga. C'est vrai que tu as oublié de te citer là, mais on en parlera peut-être à la prochaine émission de ton rôle, parce que
il a fait 5 ans quand même.
On en reparlera la prochaine fois, quand on parlera des émissions de Galère. On en parle tout le financement, tout ça, mais il faut quand même parler aussi de la technique, parce que la technique n'est pas que la technique, c'est-à-dire l'émetteur, tout ça, comment ça fonctionne.
Il faut le gérer.
La diffusion. Donc, il aura actuellement de Sceaux et de Clément. Donc, c'est eux qui vont parler de ce qu'ils font dans leur travail. Donc, cette partie-là est consacrée.
Ils, d'ailleurs, ont installé une nouvelle table de mixage à la radio.
Entre autres. Donc, il n'y a pas que le rôle de gestion qui est important pour les subventions. Il y a un rôle aussi de technique, de technicien. Et c'est important parce que c'est indispensable pour que la radio fonctionne. Non voilà. Alors, on va parler tout de suite Sceaux et Clément sur la technique et aussi le DAB+, que certains ne savent pas se soucier. Galère.
Technicien de radio, qu'est-ce que c'est? Quelles compétences il faut? Ce genre de choses-là.
À Radio Galère, le technicien s'occupe de faire en sorte que dans le studio ça fonctionne. Donc j'ai tendance à dire qu'on est sur l'ensemble de la chaîne du son, tant que le micro fonctionne jusqu'à l'émetteur, puisque Radio Galère tout émet. Et ce qui veut dire concrètement qu'on a des émetteurs sur le massif de l'Étoile et qui rayonnent sur l'ensemble de Marseille. Et dans notre travail, on doit faire en sorte que tout fonctionne. Toute cette chaîne du son.
Ça veut dire que s'il y a un souci sur l'un des émetteurs au massif de l'Étoile, qu'est-ce qui se passe concrètement? Tu ne dois pas monter pour aller vérifier ce qui se passe quand
même. Si, c'est pour ça qu'on a un plus petit 4x4 qui existe au monde, parce qu'on ne voulait pas d'un gros truc, mais oui, il faut monter au massif de l'Étoile.
Et je dis, il faut monter sur les mâts. Oui, pour placer les antennes. Et ils le font.
Après, il y a 10 000 anecdotes à raconter autour de ça. C'est très drôle. En tout cas, ça nous semble important. J'ai l'impression, à Radio Galère, moi, ça me semble important, mais j'ai l'impression que c'est aussi une envie collective d'être le plus autonome possible, en fait, sur nos moyens de diffusion. Dépendre le moins possible, quels que soient les moyens de diffusion, mais d'intervention extérieure, c'est-à-dire trop autonome. Si on fait le parallèle avec un journal, ce serait, on commence par penser les articles et on finit par le distribuer dans la rue en passant par son impression, etc., etc. On essaie d'avoir tous les maillons de la chaîne pour faire notre média à nous, quoi, qui correspondent, dont on maîtrise de A à Z la fabrication.
L'autonomie, ou l'autre mot qui est très utilisé aussi depuis les années 80, c'est le do it yourself, qui se retrouve au départ dans les mouvements PEC, mais c'est vraiment ça l'idée des choses que tu peux faire toi-même. Après, dans l'autonomie, il y a aussi ce côté un peu, on se tourne pas vers les autres, bien sûr que si, c'est l'autonomie dans le sens assez large du libre. parce qu'on essaye d'utiliser aussi des outils libres et qui veulent dire aussi qu'on ne dépend pas de logiciel propriétaire ou le moins possible. Et ça, bien sûr que l'autonomie, elle est dépendante d'une large communauté. Donc, il faut sortir de l'idée que c'est chacun dans son coin. Et...
Oui, et puis au-delà de la communauté, on peut aussi penser les choses dans le temps. L'état technique de Radio Galère actuellement, c'est aussi le fruit d'une longue histoire d'expérimentation. Comme tu disais tout à l'heure, au début, les émetteurs étaient sur des mobilettes et puis ensuite, on a eu le premier bout de ferraille sur tel coin de la colline et puis ensuite un autre. Et là, aujourd'hui, il y a un truc qui nous semble aussi intéressant et dont tu as dit quelques mots tout à l'heure, Étienne, mais Radio Galère s'occupe de la diffusion de Radio Grenouille et de United Radio. Et ça aussi, c'est une forme de collectivisation, une forme de mettre en commun des compétences techniques, d'essayer de bricoler ensemble, simplement, quoi. Et c'est-à-dire de pas juste faire nos bricolages dans notre coin et puis réussir à faire notre média nous-mêmes. Mais puisqu'on a cette imprimante pour faire notre journal, pourquoi on n'imprimerait pas les journaux de nos amis, par exemple? Et donc ça paraît aussi important de créer ces compétences, les mettre à disposition d'autres gens avec qui on aime bien travailler, faire profiter collectivement. Et c'est ces outils-là qui permettent de faire exister toutes les voix que vous entendez sur Radio Galère. Et c'est ça, moi, pour moi, je trouve ça hyper enthousiasmant, en vrai. Ça, je trouve ça hyper excitant de me dire, voilà, en fait, toute cette histoire technique, tous ces gens qui sont creusés la tête, ces investissements, ces bricolages, ces explosions de disjoncteurs dans les locaux techniques de Radio Galère, ça permet en fait à un groupe de soutien de personnes handicapées de pouvoir parler à l'antenne, à des prisonnières de pouvoir se révolter en direct à l'antenne, à des manifestations de palestiniennes d'exister dans des postes de radio. Enfin, pour moi, c'est formidable. C'est vraiment pour ça que je fais de la technique, c'est pour entendre tous ces trucs-là. Je trouve ça trop bien.
Merci Clément. Mais justement, tout à l'heure, tu disais que vous savez que vous étiez écouté parce que vous avez reçu ce coup de fil en relayant cet acte-là. Mais il n'y a pas de moyen de mesurer l'audimat sur Radio Galère ?
En tout cas, en FM, en modulation de fréquence, c'est le principe. C'est qu'il y a une source d'émission et il y a plein de postes qui reçoivent ces ondes, mais elles ne sont pas comptabilisées. C'est pour ça qu'ils se sont mis à faire des sondages où ils appellent les gens pour savoir quelle radio ils écoutent. Donc, les pourcentages, on les a, qui sont faits par des instituts de sondage, mais on ne peut pas avoir, et c'est le principe. Et on peut se dire, c'est intéressant parce que quand on écoute la radio, personne ne peut nous surveiller nous-mêmes. Tandis qu'avec un ordinateur, sans tomber dans la paranoïa, hein, mais avec un ordinateur, on peut, sur le flux stream, on peut comptabiliser le nombre d'auditeurs et d'auditrices qui écoutent. Et donc, voilà, sur le flux stream, on peut le savoir. Mais sur la modulation de fréquence, on ne peut pas. Et moi, je trouve que c'est des technologies assez intéressantes qui sont pensées sans potentiel fichage. À l'heure actuelle où on est de plus en plus fiché, ça reste notable.
Et après, à l'arrivée sur le fichage, qu'est-ce que ça donne le DAB+ ?
Le DAB+, ce sont des ondes qui ne sont pas sur les mêmes bandes passantes. En fait, la différence entre la modulation de fréquence et le numérique, elle vaut sur le fait qu'avec un émetteur, on peut diffuser 13 éditeurs, 13 radios. Un émetteur actuellement diffuse une radio. Dans notre local technique en FM, on a 3 radios, on les a nommées tout à l'heure, on a 3 émetteurs. Sur le local technique DAB+, on a 11 stations actuelles pour un émetteur. C'est ça la grande différence.
Et pour répondre à ta question, l'écoute en DAB+, c'est complètement anonyme aussi. C'est pareil, c'est avec les ondes, il y a un émetteur et t'as un récepteur. Le récepteur ne donne pas d'informations à l'émetteur, ni à qui que ce soit d'autre. Il fait que recevoir. Du coup, on peut pas savoir qui écoute.
D'ailleurs, au passage, si on voulait avoir les chiffres médiamétrie, on pourrait les avoir, mais ça nous coûterait très cher. Et ça nous intéresse pas, on s'en fout. L'essentiel, c'est que quand on nous rencontre dans la rue, les gens, moi, souvent, ils m'interpellent. Oh, Radio Galère! Voilà.
Et ça aussi, une anecdote, c'est l'autre jour, je suis allé faire le contrôle technique de la voiture dans un contrôle technique que je connaissais pas et les personnes disent ah Radio Galère, ah oui on connaît, on écoutait, est-ce qu'elle existe encore cette émission? Bien sûr elle existe encore et ça on l'invente pas quoi.
Aziz,
justement à propos du bout de ferraille là, le deuxième bout de ferraille, il faudrait peut-être dire un mot sur ça. En fait il y a quelqu'un à la radio, il y est encore, il s'appelle le doc. On est parti une fois donc petit songa en haut là donc sur la colline et on a trouvé l'autre bout de ferraille. Il y avait un numéro de téléphone sur le mât en dessous là qui est en Belgique. Donc on descend à la radio. En téléphone, c'était l'OTAN, le siège de l'OTAN en Belgique. Et on a posé poliment la question, est-ce que vous en avez encore besoin de ce mât? Il dit non, vous pouvez le prendre. C'est pour ça que le bout de ferraille est devenu donc, un autre. Voilà. Ça s'est passé comme ça.
On en apprend tous les jours.
Dans la région, jusqu'où vous émettez? Jusqu'où on peut entendre Radio Galère sur la FM?
Eh bien, sur tout Marseille. Marseille, je sais que en FM ça va jusqu'à la prison de Arles.
Voilà, sur la croix. Parfois faut bidouiller un peu son antenne pour pouvoir recevoir, mais oui, tout l'ouest du département reçoit bien, Istres jusqu'à Fos et même plus loin encore.
Ce qui reçoit mal, c'est moins grave, c'est Cassis là-bas, parce que c'est bloqué derrière les montagnes.
Oui, c'est clair, derrière la montagne.
C'est les montagnes, oui.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en DAB+, l'autorisation est supérieure au niveau de la couverture. C'est-à-dire que toutes les radios qui sont diffusées en DAB+, au-delà d'aller jusqu'à Arles comme la FM, elles montent aussi à Aix-en-Provence en direction de Venelle, voire au-delà. Bientôt, il va y avoir un deuxième mât installé sur le mont des Marseillais, avec un émetteur synchrone sur ce mont des Marseillais, qui va pouvoir émettre justement en direction de la Ciotat et de Cassis. Voilà, donc la couverture là est beaucoup plus large, beaucoup plus ouverte. Ceci dit, on nous entend aussi en FM et en DAB+, dans les contreforts des Cévennes, quand on monte en direction donc de Langogne ou de la Bastille de Puylaurens, on entend parfaitement bien.
Comme je le disais tout à l'heure, pour la prison de Aix-Luynes, on nous entend aussi à Aix, ce qui est quand même aussi notable.
Oui. Donc du coup, Radio Galère émet 24 heures sur 24. Comment est-ce que vous vous organisez ?
Beaucoup de choses jouent autour de l'automation, des logiciels d'automation qui ont apparu quand il y a eu le besoin de ne pas faire de radio provisoire, mais justement maintenant de courir 24 heures sur 24, il n'y a plus la mire, même sur la télé, c'est bien dommage. Bon. Que les logiciels d'automation ils permettent d'enregistrer des playlists et de choisir des éléments musicaux. C'est pour ça que c'est hyper important aussi sur les ondes, l'aspect musical. L'aspect musical, c'est un... c'est beaucoup de choses de choisir quels morceaux sont diffusés et c'est pas seulement des bouche-trous entre des émissions, même dans nos émissions justement là on vient d'écouter des morceaux et c'est aussi grâce à la radio que l'industrie musicale elle s'est développée et donc 24 heures sur 24 justement grâce à des ordinateurs quand même qui diffusent des playlists
et des replays aussi des rediffusions d'émissions,
c'est ça, on rediffuse des émissions de Radio Galère mais également on diffuse des programmes d'autres radios que ça c'est Sidi le programmateur qui sélectionne un certain nombre de programmes qu'ils soient musicaux ou d'actualité ou de d'enjeux politiques qui se disent que c'est intéressant et que c'est des voix qu'on n'entend pas à Radio Galère et qui méritent d'être diffusées.
C'est bien, tu as anticipé ma question parce que je me demandais justement qui était responsable de la programmation
c'est
et de la sélection des plages musicales. Donc c'est Sidi que je sous-estime depuis 3 ans.
Pas de plage musicale,
uniquement la programmation émission.
Et voilà, c'est donc terminé pour ce petit topo sur la technique à Radio Galère. La technique est quand même un aspect important de la radio.
Oui, voilà.
Parce que sans technique, pas de radio, déjà.
Voilà, et bien sans finesse non plus.
Aussi.
Voilà.
Les deux sont importants.
Voilà, ça c'était le carte de visite pour comprendre comment fonctionne la radio, pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de Radio Galère, dans la diversité des financements, qu'un salarié, pour faire fonctionner la radio. Et pour important des bénévoles, tu as souligné Jean-José, parce que c'est important, qui font ça bénévolement, gratuitement, qui prennent leur temps dans leur temps. De leur vie privée, de leur travail ou de leur retraite pour certains.
C'était l'histoire continue permanente, une émission animée par Eric Lebreux sur les zones de Radio Galère 88.4 de la bande FM DAB+. Émission que vous pouvez réécouter et télécharger en podcast sur le site de Radio Galère.